Et oui, c'est encore vous qui en parlez le mieux. On est de retour avec Nathalie Cardon, qui, si vous êtes sur le Facebook Live, vous voyez que ça s'agite beaucoup en studio, Nathalie.
Ah oui, alors, oui, ici, non, on s'agite pas. Si, on tourne, on parle, on s'écoute, on se rencontre. Et c'est un beau cadeau ce soir. Et merci à vous tous, élèves en classe de terminale de deux établissements toulousains, lycée Le Caouzou et le lycée Saint-Joseph de La Salle. Merci à Suzanne et Eric. Et puis par téléphone, dans un instant, c'est aussi un beau bouquet ce soir, plein de surprises, hein, voilà, avec des paroles qui, je l'espère, réconfortent, consolent les cœurs. C'est Bénédicte de Lélis. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir à tous.
Ravie de vous retrouver. Merci de nous accorder quelques minutes ce soir à distance, puisque vous êtes à Paris. Alors vous êtes mère de famille, Bénédicte. Donc on s'était rencontrés pour le temps de quelques émissions. Et ce soir, je vous demande d'intervenir. En plateau, nous avons quelques lycéens en classe de terminale, deux intervenants, Éric de Rus, professeur de philosophie, spécialiste entre autres de Saint-Edichstein, et puis Suzanne Josepi Testu, qui est laïque franciscaine, qui, comme vous, voilà, s'intéresse aussi à la sainteté, différents visages. Elle vient donc d'écrire un livre qui vient de paraître sur François d'Assise, Un cœur qui écoute. Alors vous aussi, Bénédicte, vous avez écrit ces derniers temps dans une très belle collection Graines de Saint aux éditions MAM. Vous avez écrit sur Claire de Castelbajac et j'aimerais introduire et que vous présentiez à tous ces jeunes qui vous écoutent ce soir, un peu toutes les générations, pourquoi Claire de Castelbajac entre autres.
Alors j'ai écrit Claire de Castelbajac, ça c'est aux éditions de l'Emmanuel.
Ah, de l'Emmanuel, je commence bien, voilà, hein, donc une erreur de ma part.
Témoin de l'invisible, et ça c'est pour les lycéens en effet. Et en fait, il me semblait que cette jeune fille, elle avait quelque chose à dire de tout spécial pour les jeunes de notre temps, puisqu'elle nous ressemble, Claire. Elle est morte à 23 ans dans des circonstances toutes simples. En fait, elle a une vie étudiante toute simple, une vie de famille toute simple. Et au cœur de cette vie, dans vos quartiers de Toulouse et dans votre belle région, elle a rencontré Jésus et cette rencontre a transformé son cœur, a transformé sa vie. Et voilà pourquoi c'est d'elle dont j'ai choisi de parler aux jeunes.
Est-ce que certains jeunes, ce soir en plateau, connaissent un peu Claire de Castelbajac? Maxence, oui. Donc vous entendez Bénédicte. Qu'est-ce que vous avez, vous, aimé de Claire?
Claire de Castelbajac, c'est pas... ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est surtout sa simplicité et aussi la proximité de certains aspects de sa vie que j'ai eu aussi, notamment sur ses lieux de vie. Elle a vécu dans la paroisse Saint-Marc, c'était un ancien couvent. J'ai vécu aussi également 2 ans là-bas pour une mission auprès de la paroisse des étudiants. Aujourd'hui, son corps il repose donc à Boulor, dans une communauté dominicaine. Cistercienne,
la ville de Boulor, donc cistercienne, vous aurez, voilà, on salue aussi les dominicains ce soir.
Et donc en ce moment, on fait une neuvaine en famille pour demander la guérison d'un acouphène qui dure depuis près de 30 ans dans l'oreille de mon papa. Et donc c'est pour ça que j'ai en ce moment une certaine proximité avec.
Ah oui, vous avez envie de réagir, Bénédicte?
Bah c'est bien beau, on va se joindre à cette neuvaine alors. On va prier pour votre papa. Et c'est vrai que ça me touche de savoir que Claire vous touche parce qu'elle est dans vos rues. Ça, j'imagine que c'est très frappant. Et ce qui est touchant chez elle, je trouve, c'est qu'au départ, c'est une petite jeune fille qui a une vie quand même très facile. Il faut dire ce qui est. Elle est très aimée. Elle est très tendre. Elle est très affectueuse. Ça, c'est très touchant chez Claire parce que c'est un gros tourbillon de tendresse et d'amour. Claire, ses parents l'appelaient l'ouragan de tendresse. Donc, c'était une petite fille très, très affectueuse, très joyeuse, très aimée. Et puis, au moment de l'adolescence, elle connaît les hauts et les bas du moral de l'adolescence, les déceptions d'amitié et les déceptions d'amour, puisqu'elle va tomber amoureuse d'un garçon qui la regardera jamais et qui sera amoureux de quelqu'un d'autre. Et donc, dans cette vie qu'on connaît bien, avec les chagrins qui sont des chagrins de nos vies très, très familiers, dans cette vie-là, elle va découvrir ce que c'est que la vraie joie. Et donc, je trouve que ça va bien avec votre thème de ce soir sur l'espérance, puisque... elle découvre que les joies quotidiennes se sont un peu évanouies parce que c'est difficile d'avoir une grande histoire d'amour qui tombe à plat. Ou puis après, elle est éloignée de ses parents quand elle va faire ses études à Rome. Elle se sent seule. la vie est difficile, elle rate ses examens, enfin voilà, elle connaît plein de petites peines comme on les connaît. Et elle dit, bah, finalement, à un moment donné, elle manque de lâcher la joie de Dieu. Elle commence un peu à s'éloigner de Dieu doucement, elle va plus à la messe, elle lâche un peu. Et puis, à la faveur d'un pèlerinage à Lourdes, qu'elle aime particulièrement, elle retrouve cette ferveur. Et là, elle retrouve cette grâce de la joie de Dieu. Et elle a cette phrase que j'aime beaucoup. La joie de Dieu, c'est quand Dieu prend plus de place dans ta vie que tout ce qui est désespérant. Et ça, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça va bien avec votre thème de l'espérance. La joie de Dieu, c'est quand Dieu prend plus de place dans ta vie que tout ce qui est désespérant. Quand tout à coup, il y a cette joie de Dieu qui m'aime, qui est avec moi, comme j'entendais tout à l'heure ce que je vous écoutais à la radio. Dieu qui est dans mon cœur, Dieu qui est avec moi, et ça prend plus de place dans ma vie que cette histoire d'amour ratée, que ces examens ratés, que papa et maman qui sont loin, que ma solitude, ou que toutes les choses difficiles de ma vie. Tout à coup, la présence de Dieu est tellement forte en moi que la joie demeure même quand la vie est moins belle, quand les choses vont moins bien.
Alors Bénédicte, en studio, de nombreux lycéens en classe de terminale et une réaction de génie, voilà, qui vous écoutait attentivement, et d'ailleurs dans ce studio, tout le monde vous écoutait. Hein. Eugénie ?
Oui, tout à fait. Moi, Claire de Castelbajac, je voulais juste réagir parce que c'est une jeune que j'aime beaucoup, dont j'ai lu plusieurs livres, plusieurs biographies. C'est vrai que ce que j'aimais particulièrement chez elle, c'est que elle avait vraiment cette joie de vivre, la joie des enfants de Dieu. D'ailleurs, elle disait elle-même, je crois que j'ai été choisie par Dieu pour être la jeune la plus, enfin la jeune
plus heureuse de ma génération.
Voilà, c'est ça exactement. Et donc c'est vraiment une jeune que j'apprécie et qui a un beau témoignage parce que sa vie est à la fois vraiment humaine et en même temps elle a su Dieu à travers les adversités, elle a su se laisser habiter par Dieu en revenant à lui après des périodes difficiles. Donc c'est vrai que c'est une
elle vie nous parle.
Voilà, c'est ça exactement.
Elle nous parle, oui. En plus, elle est très drôle. Elle est très drôle parce qu'elle est très gourmande. Déjà, ça nous fait plaisir. C'est sympa, un saint gourmand. Et puis, elle est très drôle. Il y a un moment que j'aime beaucoup où elle restaure. Donc, elle est restauratrice de peinture et elle restaure dans la basilique d'Assise des fresques qui se sont effondrées suite à un tremblement de terre. Et il y a un épisode très drôle où elle a grimpé dans un échafaudage et elle est tellement heureuse. Elle restaure Sainte-Claire et elle est tellement heureuse qu'elle sifflote tout le temps de bonheur. Et le confesseur qui est en dessous est très agacé d'entendre cette jeune fille qui passe son temps à siffloter. Je trouve ça très drôle parce que s'il savait qu'elle va devenir sainte. Et du coup, il passe son temps à sortir du confessionnal en disant « Eh là-haut, arrêtez donc de siffloter !» Et elle dit « Mais j'étais tellement heureuse que je me remettais toujours à siffloter. »
Alors, puisque vous parlez de Claire, permettez-moi, Bénédicte, je réagis un petit peu sur aussi d'autres portraits aussi, puisque vous avez aussi écrit sur ce jeune adolescent bienheureux, bientôt canonisé en 2025. Il s'appelle le bienheureux Carlo Acutis et c'est un livre. Donc, je vous conseille, chers lycéens ici présents, à découvrir aussi les livres de Bénédicte de Lillis. Pourquoi avoir écrit, Bénédicte, sur Carlo, un livre qui est destiné à la jeunesse, oui. Quelques mots.
J'ai écrit sur Carlo à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de choses sur Carlo. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, donc je pense que je n'oserais plus écrire sur Carlo maintenant qu'il est si connu. Mais il l'était un petit peu moins quand j'ai commencé à écrire sur lui. Et surtout, j'ai écrit sur Carlo parce qu'il y a une petite fille qui s'appelle Églantine, qui est sourde et qui souffrait beaucoup de sa surdité, et qui m'a demandé... Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, écrire un livre sur Carlo Acutis ? Alors, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai pas pu, mon cœur a fondu. Et en plus, en sortant de chez elle, elle m'avait invitée à déjeuner avec sa maman. En sortant de chez elle, les éditions de l'Emmanuel m'ont appelée et m'ont dit « Est-ce que vous pourriez écrire, s'il vous plaît, un livre sur Carlo Acutis ?» Alors voilà, je me suis dit, pour faire plaisir à Églantine, visiblement, Jésus voulait que j'écrive un livre sur Carlo Acutis, donc j'ai obéi. Voilà pourquoi j'ai écrit sur Carlo. Mais il a conquis mon cœur. Au départ, j'étais peut-être moins emballée parce que je trouvais que c'était un garçon à la vie tellement, tellement, tellement facile qui m'attirait moins. Et en fait, en le découvrant de plus près pour faire plaisir à Églantine, eh bien, j'ai découvert un merveilleux cœur. Un jeune vraiment, mais alors tout le monde le connaît très bien maintenant, mais un jeune vraiment merveilleusement bon et bon comme du bon pain, Carlo. Et Carlo, ce qui est touchant chez lui, on le dit beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment le cœur de sa vocation, c'est son amour de l'Eucharistie. C'est ça son espérance réside dans l'Eucharistie. C'est ça son grand amour. le grand amour de sa vie, qui dévore toute sa vie. Et ce que je trouve très touchant avec Carlo, c'est qu'il aime tellement Jésus Eucharistie que lui-même est comme un bon pain. Il a même un peu des bonnes joues, vous savez. Il est comme un bon pain, tellement bon et charitable que il est bon, un bon pain qu'on a envie de manger, vous voyez, Carlo. Donc je pense que Carlo a beaucoup contemplé Jésus Eucharistie. Et du coup, il ressemble à Jésus Eucharistie, il devient bon comme un bon pain.
Alors, on est parti du côté de l'Italie, entre Claire d'Assise et puis Carlo Acosti. Bénédicte, en studio, je reçois Suzanne Giuseppe Testu, qui est laïque franciscaine, qui a aussi beaucoup écrit. Et on reste sur la ville d'Assise et l'Italie. Et donc, j'aimerais bien une rencontre entre vous, spontanément, puisque on a préparé cette rencontre, cette émission ce soir, avec vous tous. Mais il faut laisser aussi un peu de spontanéité aussi à ce direct. En studio, Bénédicte, j'ai Suzanne Giuseppe Testu qui a écrit de nombreux livres sur Saint François d'Assise. Elle vous a écouté attentivement. Souhaitez-vous réagir, Suzanne, à Bénédicte?
Oui, avec bonheur. Je souhaite réagir avec bonheur parce que j'organise depuis de nombreuses années des pèlerinages à Assise. Et il m'est arrivé très souvent de rencontrer Monseigneur Sorrentino, l'évêque d'Assise, qui m'avait profondément parlé de ce jeune et de son désir de faire connaître ce jeune à notre jeunesse, justement, parce que pour lui c'était extrêmement important. Et bien sûr, moi aussi, j'étais un petit peu sceptique. Bon, voilà. Et en allant à Assise, évidemment, je vais me recueillir devant Carlo. Et j'engage vraiment tous les jeunes qui sont ici, puis d'autres, ceux qui nous écoutent, à y aller. Parce que, en effet, il est très beau. Et ce qui est extraordinaire, je crois, pour notre jeunesse, c'est qu'il voit un jeune en jean. Il a son blue jean. Il est allongé. Il est paisible. Et c'est un jeune, comme vous tous. Et vraiment, je vous engage à aller vous recueillir devant lui parce que c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez-y.
Merci beaucoup.
Je vous en
prie. Peut-être qu'il y a d'ailleurs un point commun entre Claire et Carlo. Il y en a plein, évidemment.
Évidemment.
Mais le point commun que je vois le plus fort, c'est peut-être ce choix très courageux de la pureté.
Tout à fait.
Les deux, Carlo comme Claire, ils font un... Alors Claire, elle était plus âgée. Carlo, c'était encore plus facile à 15 ans. Claire, elle va quand même jusqu'à ses 20 ans.
Oui.
Et ils font ce choix, mais ils font ce choix très net. On voit très bien dans les récits de la vie de Carlo que Carlo s'écarte de toutes les conversations un peu en dessous de la ceinture, qu'il n'aime pas quand ses copains sifflent une fille dans la rue.
Il sait faire des choix. Il sait faire des choix.
Il fait ce choix de la pureté.
Oui, il sait se protéger.
Claire, de manière très nette aussi. Oui. Elle dit d'ailleurs, c'est difficile de ne pas avoir un amoureux juste pour le plaisir.
Bien sûr.
Quand même bien agréable. Elle écrit à ses parents de manière très franche. Ce serait quand même bien agréable, j'ai pas le moral. Ce serait bien agréable d'être dans les bras d'un beau garçon, ça me consolerait. Mais j'attends l'homme de ma vie. Et donc, il y a l'un comme l'autre, ils n'ont pas encore trouvé leur vocation. Je pense que l'un comme l'autre, ils ont... Non, Carlo, il parle quand même un peu d'être de devenir prêtre, mais les portes sont ouvertes. Claire, elle a plutôt envie de se marier. Et en fait, ils font le choix de la pureté de manière... Et je trouve ça beau pour nous-mêmes, adultes, mais
absolument,
évidemment pour toute la jeunesse. L'éclat de leur pureté... dans ce monde quand même abîmé par la pornographie et tout ça, eux, ils ont un magnifique regard sur le corps et sur l'amour très respectueux, qui est un beau témoignage pour notre temps.
Justement, cette pureté se retrouve sur leur visage. Et quand on voit Carlo, eh bien, cette pureté se retrouve sur son visage. Et c'est ce qui est extraordinaire. Merci de l'avoir dit.
Après, ce que je trouve touchant, c'est que du coup, il pourrait nous sembler loin si on a nous-mêmes une vie moins pure. Et on a toujours très honte quand on a fait des péchés et tout ça, qu'on est abîmé un peu. Et je trouve très touchant parce que Carlo fait beaucoup de miracles dans le domaine de la pornographie, ce que je trouve extrêmement touchant parce que vous savez qu'après sa mort, on a vérifié son ordinateur dans le cadre du procès de canonisation et on a découvert qu'il avait jamais regardé un site pornographique alors qu'il avait pas du tout de filtre et tout ça n'existait pas à son époque. Et il est beaucoup prié, Carlo, pour des personnes, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, en situation d'addiction à la pornographie. Et il apporte beaucoup de libération. Et donc, je trouve d'autant plus touchant qu'il n'est pas pur comme s'il nous regardait de haut en disant « Ah bah vous êtes moins pur que moi, dommage, débrouillez-vous ». Il est pur et il vient nous aider à vivre la pureté et il fait des beaux miracles de libération, d'addiction profonde et de grande souffrance des jeunes enfermés, ou moins jeunes, il y en a aussi beaucoup, enfermés dans des addictions à la pornographie. Donc, je trouve ça plein d'espérance. Ils sont purs, mais pour nous donner la grâce de leur pureté, pas pour nous décourager.
Merci Bénédicte. À mes côtés, un élève en classe de terminale, toujours très attentif aussi à la manière dont vous parlez de cette belle intercession du bienheureux Carlo Acutis. C'est Xavier. Alors vous connaissez un peu ce bienheureux Carlo, Xavier.
Oui, exactement.
Quelques mots. Qu'est-ce qui parle à votre cœur?
Bah Carlo, c'est un bienheureux comme il en a tant d'autres. Mais ce qui le démarque vraiment pour nous, en tout cas les jeunes, c'est que il a notre âge. Quand il agissait, c'était un jeune comme nous, qui était pur, qui essayait de faire le bien. Et du coup, on se sent vraiment proche de lui. On a envie de l'imiter. Enfin moi, j'ai jamais lu des livres sur lui, mais une fois ma mère, elle a ramené des BD de lui à la maison. Et je sais pas, c'était il y a 2-3 ans. Et j'étais curieux, et du coup j'ai ouvert et j'ai découvert sa vie. Et je me souviens d'avoir été vachement passionné à la fin. Enfin, peut-être même d'avoir lâché une petite larme en me disant waouh, quand même c'est quelque chose, ce jeune, enfin, puisqu'il est quand même mort vraiment jeune, il a eu une vie épatante et il a fait tellement de bien. Et on se remet en question aussi, on se dit waouh, pourquoi moi je fais pas ça de ma vie. Et du coup voilà, c'est un modèle pour les jeunes et pour tous, surtout de son âge.
Bénédicte, vous avez envie de réagir?
Je suis d'accord. Je trouve ça très touchant. Et en fait, il a fait beaucoup de choses de sa vie, mais beaucoup de choses qu'on peut faire. Partager un repas avec quelqu'un dans la rue. Il n'a rien fait d'inimitable, en fait. C'est ça qui est aussi très accessible pour nous. Il n'est pas parti à l'autre bout du monde. Il a été missionnaire avec ses talents. Il avait le talent de Internet. Il a fait une exposition. Mais peut-être que vous, Xavier, vous avez un autre talent. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec les talents qui étaient les siens, il les a exploités pour le service de l'annonce de l'Évangile. Mais il a fait du caté. Il a fait des trucs. Je sais pas. Vous êtes tous lycéens. Vous pouvez tous faire du caté. Vous pouvez tous donner à votre sandwich ou économiser vos sous pour acheter un sac de couchage pour quelqu'un. Enfin, c'est que des choses très accessibles, donc c'est vrai qu'il nous tend vraiment la main, Carlo.
Merci, Bénédicte. Alors, en studio, nous a rejoint Éric de Russe. Je crois que vous ne vous connaissez pas. Éric de Russe est philosophe, auteur de nombreux ouvrages et entre autres spécialiste. Nous avons parlé de ces belles figures à l'instant, de Claire, de Carlo, de Saint-François, une certaine Saint-Edichstein. Voulez-vous un peu réagir à ces figures présentées par Bénédicte de Lillis, Éric?
Oui, volontiers. Tout d'abord, je vous remercie. Et ce serait une manière de réagir en prolongement, pour ne pas répéter ce qui a été dit et à quoi j'étais très attentif et sensible. Vous disiez, je l'ai entendu d'ailleurs de l'une des intervenantes, qu'au départ, la figure de Carlo Acutis n'était pas particulièrement attrayante. Et même, vous avez parlé de l'apparente facilité de sa vie. Mais moi, ce qui m'avait frappé, je ne le connais pas bien, mais j'avais lu certaines de ses paroles, et ce qui m'avait frappé, c'est le réalisme. Edith Stein parle du réalisme des saints, dans un ouvrage qui est l'un des derniers ouvrages qu'elle écrit, consacré à Jean de la Croix, le réalisme des saints, c'est qu'ils sont mus par l'Esprit Saint. Et chez Carlo Acutis, me semble-t-il, j'ai été frappé par le réalisme qui était le sien, à savoir la valeur du temps. Et je fais le lien avec l'espérance, c'est que s'il était plein d'espérance, loin de le mettre dans une passivité, cela l'a incité à apprécier. Il y a une gravité aussi dans l'espérance. Je ne dis pas tristesse, je dis gravité, au sens du poids. Il avait conscience, je crois avoir lu de lui, qu'il avait dit n'avoir en toute conscience pas perdu un seul instant de sa vie. Et là, il y a, c'est-à-dire que l'espérance, l'ouverture sur le royaume, jette une lumière sur notre condition incarnée et sur le temps, et nous appelle, il y a un appel, une exigence, pourrait-on dire, un appel à brûler le temps pour Dieu, le temps qui nous est donné, mais en tout cas, ne rien en perdre. Et donc, je trouve qu'il y a là un réalisme, une manière de nous rappeler que la vertu d'espérance qui est tout à fait ouverte sur le ciel, eh bien, est également tout aussi ouverte sur la terre, et que notre manière d'honorer le ciel sur la terre, c'est de consacrer le temps à Dieu, et il n'a fait que cela. Donc c'est ce réalisme aussi de l'espérance dont je pense qu'il est un témoin, un signe.
Bénédicte, dernier mot avant de vous quitter. Vous avez écrit également et consacré un livre, et nos lycéens ici présents pourront aussi vous découvrir. Je vous invite, chers lycéens ici présents, et puis pour ceux et celles qui nous écoutent, parents ou grands-parents, vous pouvez aussi découvrir les écrits de Bénédicte de Lélis pour offrir aussi en cadeau aux enfants ou aux petits-enfants. Et je vous invite, chers lycéens autour de la table, à découvrir aussi Carlo dans la lecture, comme Claire de Castelbajac, ainsi que la petite Thérèse. Elle est importante pour vous, Bénédicte, Thérèse de Lisieux. Oui, c'est une grande histoire, d'histoire de rencontre, Thérèse, d'amitié.
C'est vrai, c'est une histoire de rencontre, d'amitié. Et cette petite Thérèse, je trouve qu'elle, pour le coup, elle a un cœur bien brisé d'enfant. Donc spontanément, d'ailleurs, elle m'était peut-être plus proche. Et c'est ce petit cœur brisé par la mort de sa maman. On connaît bien l'histoire de cette maman morte à Zélie, alors que sa petite fille avait que 4 ans. Et j'entendais bien ce que disait, j'ai pas retenu votre nom, monsieur qui est spécialiste d'Edith Stein, sur cette ouverture vers le ciel.
C'est russe.
Voilà. Et il me semble que Thérèse, elle l'a vécu ça de manière très forte, puisque précisément sa maman était au ciel. Et donc, du coup, toute son âme. C'est vrai que Carlo a une grande ouverture vers le ciel qui est magnifique. Et c'est vrai que la petite Thérèse, c'est toute son âme déchirée par l'absence de sa maman qui va s'ouvrir sur le ciel et qui va ne plus compter que sur le ciel et qui va ouvrir les deux bras de son cœur vers Jésus en attendant tout de lui, en espérant tout de lui. Évidemment, cette petite Thérèse, elle est très touchante par sa grande fragilité d'enfant qui est rejointe par la puissance de Dieu qui la rend forte et courageuse pendant la nuit de Noël, dans un beau miracle de Noël. Donc cette petite Thérèse, elle nous rejoint certainement dans toutes nos fragilités.
Alors avant de vous quitter, Bénédicte, je voudrais que vous laissiez peut-être un mot ou d'encouragement, de belles paroles pour les lycéens ici présents en studio et puis tous les auditeurs qui vous ont écouté. Voilà, sur ce thème aussi, qui est le fil conducteur de ces 3 jours de Radio Don sur l'antenne de Radio Présence. C'est l'espérance. Comment espérer dans un monde de guerre, un monde de famine, un monde éprouvé par la confusion parfois et des troubles. Comment être ce témoin aujourd'hui? Et ça sera un peu le mot de conclusion, avant de nous séparer de vous. Et merci.
C'est un grand défi.
Ah oui, mais nous sommes faits pour les défis.
Peut-être que je peux dire de tout mon cœur, mais il me manque vos visages. Enfin, moi, je suis très privée de ne pas avoir vos visages.
On vous enverra des photos.
J'imagine ces beaux visages tout autour de la table.
Mon collègue Bénédicte Jonathan, qui est à la technique ce soir, et je remercie Jonathan de tout cœur, me dit qu'on nous suit sur Facebook et qu'il y a des photos sur Facebook. Voilà.
Très bien.
Il suffit d'aller voir du côté de Facebook. Voilà les bons côtés des réseaux sociaux.
Il y en a. Donc peut-être ce que j'aurais envie de dire, c'est faisons comme ces saints, essayons les uns avec les autres, les uns par les autres, ensemble, d'avoir les yeux qui se lèvent sur le visage de Jésus. Et je crois profondément que si nous gardons les yeux fixés dans toutes les étapes de notre vie, comme Claire, même dans les étapes un peu de découragement qu'on a décrites, ou comme la petite Thérèse dans les épreuves de la vie, ou comme Carlo dans sa vie toute simple, garder les yeux fixés sur Jésus, alors on ne perdra pas l'espérance, même dans les grandes souffrances de la vie, même dans les grandes peines de la vie. On ne perdra pas l'espérance parce que Jésus est notre espérance et que sa lumière brille vraiment dans les ténèbres et que donc on peut regarder cette lumière, même quand on est plongé dans les ténèbres, elle ne nous quittera pas. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus, c'est ça ce que j'aurais envie de dire.
Merci infiniment, Bénédicte. Je pense que ces mots vous parlent à chacun et chacune ici présent.
Ah oui, absolument. Comme je disais au tout début de l'émission, on vit une époque qui est très dure, je l'estime. On fait face à des nombreux défis auxquels on n'a pas pu avoir, auxquels on est les premiers à faire face, tels que la crise climatique, mais aussi l'insécurité grandissante et tous les régimes totalitaires qui existent. Et je suis d'accord, Jésus, c'est vraiment notre phare dans tout ça, notre lueur d'espérance, et ce qui nous fait tenir dans tout ça.
Alors, merci beaucoup, Bénédicte de Lillis, donc en direct, donc par téléphone à Paris. On vous souhaite de bien poursuivre vos activités.
Vous êtes sous la neige, je ne sais pas si vous êtes sous la neige.
Ah,
aussi,
non.
Nous, on est sous la neige. Comme ça, vous m'avez apporté un peu de soleil.
Ah, de beaux flocons. Merci à vous, Bénédicte, et à très bientôt. Au revoir.
À bientôt, oui. Au revoir.
C'est le temps d'une plage musicale.
Oui.
Et c'est le temps surtout d'appeler la radio au 05 62 48 63
00. Faites mon boulot, Nathalie, il n'y a pas de problème.
Non,
je vais vous laisser les boutons, là, et puis voilà.
Si vous voulez.
Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, attention pour l'année prochaine, pour demain. De toute façon, demain, il y a une veillée aussi, il faudra faire attention. Voilà. On vous laisse nous appeler 05 62 48 63 00 pour faire votre promesse de don. On vous attend. Il y a beaucoup de personnes au standard, encore, à 21h26. Et on se retrouve juste après Lynn sur Radio Présence. Et même, il y aura un témoignage d'auditeur à suivre juste après.
Je n'y attendais pas, au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenirs en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort.
Le Radio Don.
Radio Don, ça veut dire merci.
Le Radio Don sur Radio Présence. C'est encore vous qui en parlez le mieux.
Radio Présence m'apporte beaucoup de renseignements, beaucoup d'enseignements pour pouvoir après parler avec les enfants et essayer de leur faire passer ce à quoi je crois au plus profond de moi. Il y a beaucoup de reportages, beaucoup de renseignements. Ça prolonge un peu ce qu'on vit à la messe le dimanche. Ça permet tous les jours d'avoir un regard religieux. Je suis confortée dans ma foi et puis je sens que je ne suis pas seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi.
Vous aussi soutenez Radio Présence, appelez tout de suite au 05 62 48 63 00.
05 62 48 63 00.
Et notez-le bien, ce numéro, il est très important, 05 62 48 63 00. Je laisse Nathalie ranger ses feuilles, puisque dans quelques minutes, elle va reprendre l'antenne, voilà. Elle se prépare, tranquillement. Juste le temps de vous dire, on entend évidemment beaucoup de témoignages. N'hésitez pas, si jamais vous voulez entendre la radio, vous pouvez aussi donner pendant ces témoignages via le site internet. Tout est sécurisé, n'hésitez pas, www.radioprésence.com. Et si jamais, je vous redonne le numéro 05 05 62 48 63 00. On a eu 3 appels depuis le début de la veillée. Nathalie, je vous laisse continuer votre veillée, puisque c'est la première de ce Radio Don 2024.
Ce n'est pas ma veillée, c'est la veillée de Radio Présence. C'est la veillée de vous tous, hein, et pour vous tous, hein, chers auditeurs fidèles. Donc on peut rappeler en début d'émission, vous n'hésitez pas à appeler avant, après, et puis demain toute la journée au 05 62 48 63 00. Alors on poursuit cette soirée avec là dans un instant au micro Romane. Hein, je voudrais un peu vous interroger sur ce deuxième pèlerinage du rosaire, hein, qui se déroulait à Lourdes pour vous, où vous avez ressenti, je n'en dirai pas plus, hein. La suite je connais, mais je voudrais que vous témoigniez en direct, hein, un cadeau aussi pour ceux et celles qui vous écoutent, parents, grands-parents et puis toutes les générations.
Moi j'ai eu la chance de faire 3 rosaires et chaque rosaire m'a apporté vraiment énormément de choses dans ma foi. Le premier m'a tout simplement fait renouer avec Dieu, puisque je m'étais totalement éloignée de ma foi, je n'allais plus du tout à la messe, j'étais plus du tout sûre de croire en fait, mais je suis partie au rosaire par une envie de découvrir et j'ai vraiment... renoué avec Dieu. Et donc pendant mon deuxième rosaire, j'ai ressenti, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme un appel, vraiment, quelque chose qui m'a poussée donc à demander la confirmation à mon retour. Et donc depuis, je me prépare à la confirmation. Ça va arriver très bientôt, le 7 décembre prochain donc. Et j'en suis ravie. Mes 3 rosaires ont vraiment été des expériences formidables, très très enrichissante d'un point de vue personnel, des rencontres, enfin j'ai fait beaucoup beaucoup de rencontres qui ont fait grandir aussi justement cette espérance en moi, et puis voilà, d'un point de vue de ma foi, ça a été assez extraordinaire.
Et vous avez surtout dans ces différents rosaires, différentes expériences, renouées avec la foi.
Ah oui, oui, totalement renouées, puisque je m'étais vraiment éloignée de ma foi, enfin même... Je ne croyais plus. Enfin, je ne suis pas dans une famille pratiquante. Il n'y a que ma grand-mère qui m'accompagne vraiment dans la foi. Mais je n'étais pas. Je n'étais pas vraiment sûre de savoir si je croyais, quel sens ça avait. Et vraiment, ce rosaire, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est en fait le partage de tout le monde et de voir la foi et ce que ça a apporté aux gens, le bonheur que ça leur procurait. Ça m'a donné envie, moi aussi, de me replonger dans cette relation avec Dieu.
Alors, Eric, vous intervenez non pas en tant que professeur de philosophie parmi tous ces élèves, puisque vous en connaissez certains, que certains sont de vos élèves, mais vous avez pris des notes depuis un petit moment, voilà, de cette soirée. Peut-être une petite synthèse de ce que vous avez entendu des uns et des autres, Eric. Merci.
Oui, c'est extrêmement riche, et je reviendrai tout d'abord sur le lien entre espérer Dieu, espérer en Dieu. Et on retrouve ici le lien entre la foi et l'espérance. Espérer Dieu, c'est l'acte même de la foi, puisque la foi a Dieu pour objet. C'est une vertu théologale. Edith Schandy, la foi, c'est la substance de la révélation, c'est-à-dire que l'objet de la foi, comme de toute vertu théologale, mais l'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. Et espérer Dieu, c'est l'acte même de la foi. Et Edith Schandy ajoute à ce sujet que la fermeté de la foi, elle se fonde sur quoi ? Pas du tout sur ce que nous ressentons, ça l'a été plusieurs fois dit, ce que nous pouvons ressentir, mais sur ce que Edith Schandy appelle l'absoluité de la permanence de l'être divin. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu ne fera jamais défaut, parce que Dieu est Dieu et il n'est rien que Dieu et pas moins, c'est pour cette raison même, et donc la foi n'est pas en vertu de l'absurde comme on l'entend, pas du tout, mais c'est sur cette absoluité là, c'est sur ce fondement. D'ailleurs en hébreu, vérité c'est emet, et emet c'est le roc, et donc Dieu est ce roc, et espérer Dieu est justifié au regard de l'absoluité de Dieu. Voici ce que dit Edith Stein. Elle dit de Dieu qu'il nous soutient, en lui nous croyons avoir un appui sur lequel nous pouvons compter en tout temps, durablement solide. Et donc espérer Dieu ne peut que se prolonger dans cette remise de soi entre les mains de Dieu, espérer en lui, se remettre en lui. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est que on le voit, mais ça en découle, puisque l'espérance se fonde sur Dieu, alors elle ne se fonde pas sur nos qualités ou sur nous-mêmes. Nous n'espérons pas parce que nous avons des raisons d'espérer, parce que nous aurions des qualités à être missionnaires, ou parce que les autres nous accueilleraient plus ou moins bien. Toutes ces raisons-là ne pèsent pas dans la foi. L'une des élèves disait, une jeune fille disait, le laisser agir. Et finalement, c'est ça, espérer en Dieu, ce n'est pas se fonder sur nos qualités, mais j'oserais dire même, c'est à proportion de ma misère que j'ai des raisons d'espérer. C'est précisément parce que je suis pauvre que je peux tout espérer de lui et que je peux le laisser agir. Ensuite, cela nous rappelle que la foi est une vertu théologale infuse. La foi est un don de Dieu. Elle est infuse. On ne se donne pas la foi, ni l'espérance, ni la charité. C'est infus. Et enfin, c'est l'ouverture sur le ciel. Ça a été rappelé avec tous les saints. Je cite le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1817 qui dit « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, tout est dit, hein, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit-Saint. » En d'autres termes, sur quoi se fonde la foi ? Sur une promesse. C'est la promesse de Dieu qui justifie notre foi. Et que nous a-t-il promis ? Lui-même. Qu'est-ce que la vie éternelle ? Élisabeth de la Trinité disait, le ciel c'est Dieu, et la vie éternelle c'est la communion, la restauration d'une communion plénière avec Dieu. C'est cela que vivent les saints, et qu'ils ont commencé par vivre ici-bas. Donc en fait, à travers, moi je suis émerveillé, vraiment, émerveillé, et ma pauvreté me permet d'accueillir d'autant plus pleinement tout ce que j'entends, et qui m'éblouit, et qui m'émerveille. Et pauvrement, je le thématise, mais... je l'articule, mais dans un acte de vraiment de grande gratitude, de profonde gratitude.
Et je suis moi-même, Eric, émerveillée par tous ces jeunes que nous rencontrons ce soir, et je l'espère, ceux et celles qui nous écoutent sont émerveillés aussi par le témoignage de vous tous. Donc, je vous remercie à chacun et chacune. Vous souhaitez prendre la parole et réagir. On est tellement entouré que je ne me rappelle plus. C'est Thomas.
Oui, c'est ça.
Donc Thomas, on vous écoute.
En fait, j'aimerais réagir donc sur ce que Monsieur De Rus a dit quand il a dit que espérer Dieu, ce serait attendre voilà que Dieu fasse. Mais en réalité, ce serait pas plutôt Dieu qui, dans notre vie, va nous mettre des épreuves, et durant ces épreuves-là, on ne pourra pas attendre qu'elles se résolvent toutes seules. Mais qu'en réalité, ce serait à nous justement de trouver, faire en sorte de résoudre ces épreuves-là que Dieu mettra dans notre vie. Et parce que si on attend, il va nous mettre plusieurs épreuves, et il sait que ces épreuves-là sont faites pour nous et qu'on réussira à les résoudre, à réussir à les surpasser. Mais seulement si on agit là-dessus, en fait.
Alors, évidemment, quand je dis se laisser agir, ça c'est encore Edith Stein qui vient à mon secours, si j'ose dire. Je cite, l'abandon est l'acte le plus élevé de la liberté. L'abandon est un acte, ce n'est pas de l'inaction. Et donc m'abandonner, c'est le suprême acte de ma liberté. C'est la remise de moi qu'a fait Jésus, la déposition de sa vie entre les mains du Père. Et au moment du repas pascal, il a déposé. Il a mis le tablier du serviteur, il a déposé. Donc quand je parle de le laisser agir, c'est la fine pointe de notre liberté. Donc c'est l'acte suprême, ce n'est pas de la passivité, l'abandon. Et c'est dans cet abandon où je remets ma liberté par un acte de la liberté, en quoi j'agis pleinement et suprêmement, que je lui ouvre toutes les portes. Et donc, en effet, plutôt que de dire, et là vous avez parfaitement raison, plutôt que de dire que Dieu prend le relais dans mon inaction, ce que je n'ai jamais dit au passage, mais que vous ne me faites pas dire, au lieu de dire que Dieu prend le relais de mon inaction, je dirais que je deviens participant de la vitalité divine. En fait, qu'est-ce que l'abandon ? C'est une manière de participer de la vitalité de Dieu. Je participe donc d'une dynamique et d'une vie, cela a été dit. Donc là où apparemment, et vous voyez, je suis prisonnier du langage, parce que le langage humain, en parlant d'abandon, nous fait entendre immédiatement une passivité. Mais précisément, cette passivité, c'est le consentement que je donne à l'activité de Dieu qui me traverse et qui accomplit ma propre liberté.
Vous Vous êtes raisonnable. C'est votre professeur là qui vous répondait.
Non, je trouve la merveille de notre métier, c'est d'être provoqué à penser et à vivre par ces jeunes. Enfin, c'est merveilleux.
Ces jeunes nous font réfléchir. Hein. C'est un moment un peu unique ce soir. Eugénie, donc c'est votre professeur aussi. Vous avez peut-être, donc vous êtes bien sage, mais souriant. Voilà, vous avez envie de réagir.
Moi, ce que
vous serez pas noté, hein. C'est promis. Hein.
J'espère. Voilà. Par rapport à l'abandon, c'est vrai que je le vois aussi pas mal parce que je fais du caté aux enfants de ma paroisse de temps en temps, et je trouve ça beau de voir souvent la simplicité de ces enfants qui posent des questions, mais en fait. Des questions très profondes sur le ciel, sur la vie après la mort, justement en lien aussi avec l'espérance. Mais et voilà, et qui nous invite à réfléchir sur l'espérance de manière très simple. Enfin, c'est pas toujours évident de répondre avec nos pauvres mots et qu'est-ce qu'on en sait en fait. On parle avec ce qu'on en ressent, enfin ce qu'on y croit, enfin, comment on y croit. Mais voilà, je trouve que c'est aussi un beau témoignage de voir ces enfants qui sont prêts à croire que Dieu existe et est présent et qui accueillent comme ça aussi ce message d'espérance.
Merci Eugénie. Maxence.
Très bien. Moi, je voulais juste simplement revenir sur un point disait Monsieur Dorus tout à l'heure en nous disant que l'espérance était une grâce qui nous était innée et qui n'était pas à acquérir. Qui nous était infuse.
Une vertu théologale, c'est par définition une vertu infuse. Elle est greffée sur l'organisme spirituel. Chaque vertu théologale est greffée sur une faculté de l'homme. Donc la théologie ancienne, elle fait que c'est un don de Dieu, mais un don qui est à déployer, évidemment. Mais l'espérance, on la reçoit, on ne se la donne pas. Mais on la déploie, par contre.
Donc ça, c'est qu'elle est à trouver en nous-mêmes et à creuser,
elle nous a été
à approfondir,
oui.
Et c'est, je voulais simplement dire que en fait aujourd'hui, on la retrouve chez les gens, mais les gens aujourd'hui croient plus au destin. Et je dirais que le destin est un peu une accumulation de l'espérance et également de peur que ces gens ont à en fait avoir peur de échouer en ayant espérance et donc de ne pas après avoir une réponse à leur attente. Et donc ils préfèrent croire simplement au destin qui est entre autres cette espérance. En pensant que quoi qu'il fasse, ce qui arrivera devra arriver, et donc qu'il ne faut pas en fait avoir peur de l'espérance et que c'est aussi à nous de mettre en œuvre et tout du bon côté pour que ce qu'on espère puisse arriver dans notre vie.
Oui. Roman,
je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Jenny tout à l'heure sur le fait qu'elle faisait du catéchisme. J'ai la chance d'accompagner moi aussi un jeune qui se prépare à la confirmation de quatrième et j'ai commencé sa préparation là avec lui vendredi dernier et au tout début je lui posais des questions sur ses potentiels doutes dans la foi et il m'a répondu je ne doute pas, comment peut-on vivre en doutant de Dieu alors que c'est ce qui nous fait vivre, et ça m'a absolument estomaqué, je savais presque pas à quoi répondre je pense vraiment que les enfants portent des espérances et la naïveté de l'enfant, justement,
l'innocence peut-être.
Oui, l'innocence, hein, voilà, oui. Des enfants font que cette espérance est encore plus grande. Enfin, je ne sais pas si c'est, enfin, s'exprime en tout cas de manière plus peut-être libre. Et je trouve ça très beau. J'ai aussi vu, enfin, je suis partie cet été en Roumanie pour aider des enfants qui sont en difficulté. Et c'était pour moi le plus beau témoignage d'espérance que j'ai vu. C'était vraiment des enfants très très en difficulté et pourtant ils avaient le sourire tous les jours. Et on était là pour les aider, mais finalement c'est bien plus eux qui nous ont aidés
qu'autre
chose.
Parce que vous avez reçu au centuple.
Et je trouve que voilà, l'espérance elle passe vraiment par les enfants.
Merci Romane. Suzanne, vous voulez réagir un peu à tout ce que vous avez entendu autour, au fond, de cette espérance qui demande un acte d'abandon.
Oui, je n'entends que des belles choses.
Ah oui, moi aussi. Et j'espère que les auditeurs aussi.
J'ai envie de revenir sur l'abandon. Le mot déposition a été cité. Pour moi, c'est un très grand mot.
C'est une grande histoire aussi.
Mon premier livre s'appelle La Déposition. Et je crois que l'abandon, c'est l'apprentissage de la vérité. Plus on apprend à se déposer sous le regard du Seigneur, plus on ose le regarder, plus on ose se laisser regarder, moins on triche. Parce que nous avons tous nos petites tricheries, même devant Dieu. Nous avons tous nos arrangements. Comment être abandonné quand on triche? Si je me mets sous le regard du Seigneur, si j'apprends à me déposer devant lui en vérité, là, je vais entrer de plus en plus dans un abandon. Pourquoi? Parce que je vais découvrir sa miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui va me permettre d'ancrer l'espérance en moi et de la mettre en œuvre. Parce que oui, elle est là, mais à moi. J'ai à collaborer à la grâce, j'ai à collaborer à ces dons de Dieu qui sont déposés en moi par le Seigneur, mais ma part, j'ai ma part. La grâce ne fait pas tout. Sans moi, la grâce ne peut rien. Donc, à moi de mettre en œuvre cette espérance.
Donc, sortir du sommeil, sortir de la passivité, se mettre en route,
c'est se mettre
se réveiller,
en route, c'est
faire agir, des choix aussi.
Et ne pas avoir peur, de sa misère, ne pas avoir peur de ses péchés, ne pas avoir peur de sa faiblesse humaine, de ses coups ratés. C'est justement oser les déposer sous le regard du Seigneur, oser se dire en vérité.
Donc c'est oser se risquer devant le
Seigneur.
Prendre
ce risque. Oui. Mais ce n'est pas un risque dès l'instant où j'ai la foi. Ce n'est pas un risque. Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est nous qui l'inventons. Mais dès l'instant, tout est lié. Rien n'est séparé. Mais si j'arrive à me déposer en vérité, là, l'espérance jaillit, et elle jaillit à travers la miséricorde du Seigneur. Et c'est une force extraordinaire. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de François d'Assise, de la déposition qu'il a faite devant le Christ.
On est d'accord,
peut-être je ne sais pas.
Je ne sais pas, ou quelques minutes, ou la prière, on ne pourra peut-être pas tout dire.
Elle est toute simple.
Elle est toute simple.
Mais justement, François est dans une situation extrêmement difficile. C'est un jeune comme les autres. Il a eu envie de beaucoup de choses. Il n'en était pas encore à l'espérance. Il avait envie de vivre. Il avait envie des jeunes de son âge. Bon. Et puis, tout n'arrive pas comme il le souhaiterait. Et évidemment, il est dans un doute terrible. On a parlé de ces moments de perte de foi qui nous arrivent à tous.
Parler aussi à beaucoup de qui vous écoutent ce
vide,
soir.
De vide. Ouais, ouais. Et il est en errance. Mais il y a, bien sûr, ce désir de Dieu. Ce désir de Dieu. Il n'espère pas encore en Dieu, mais il est poussé par ce désir de Dieu. Il entre dans cette petite église de Saint-Damien. Et je vais vous lire cette prière, parce qu'il dit « Ô Dieu, ô et glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur et donne-moi la foi droite, l'espérance certaine et la charité parfaite, le sens et la connaissance, Seigneur, pour que moi, je fasse ton saint et véridique commandement. » Eh bien, à ce moment-là, l'espérance devient l'ancrage de son âme. Il a donné sens à sa vie. Il trouve sens à sa vie. Il ose demander l'espérance pour justement pouvoir la mettre en œuvre. Voilà.
C'est de beaux cadeaux, dites-moi. Merci, Suzanne. Quand vous entendez Bénédicte de Lillis, Suzanne Joseph-Pitestu, Éric de Russe, chers lycéens, est-ce que vous recevez ces paroles, ces rencontres comme un cadeau ce soir pour vous? Et puis, bien sûr, nous ne perdons pas de vue que vous êtes écoutés ce soir et que c'est un cadeau aussi, je l'espère, pour les auditeurs. Thomas?
Alors, oui, tout à fait. Justement, en fait, moi, je prends compte en fait de tout ce que Monsieur de Russe a dit et tout ce que Suzanne a dit aussi, parce qu'en fait, je suis aussi ici pour apprendre. J'apprends des choses, par exemple que l'abandon était en fait un acte. Moi, je pensais plutôt que c'était un acte passif et qu'on ne faisait rien. Et en fait, finalement, non. Voilà, on peut baisser les bras, tout laisser à Dieu, on va dire, faire, mais toujours quand même garder en tête, parce que si on baisse totalement les bras, l'acte serait trop gros et on pourrait pas se relever après. Donc finalement, toujours garder en tête que Dieu est là, il est avec nous et qu'il va nous aider à surmonter les épreuves qui nous donnera en fait dans notre vie. sur tout ça.
Vous y revenez beaucoup hein, sur ces épreuves qui vous donnera dans votre vie. On n'ira pas plus loin. Je ne vais pas vous interroger sur les épreuves de votre vie d'aujourd'hui, du passé ou de demain. Annie, vous nous avez rejoint. Vous avez eu le courage de débuter les premières minutes de cette soirée et vous revenez là au micro. On vous écoute. Hein.
Alors, je voulais juste revenir sur un point qu'a levé Suzanne. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, un trou de la foi. J'ai jamais eu le temps de perdre la foi puisque j'ai quand même pris 15 ans à l'acquérir. mais donc je peux quand même témoigner de ce que c'est de vivre sans et de la différence que je ressens de vivre avec maintenant. Et je peux dire que c'est quand même, on se sent beaucoup plus porté. On a l'impression d'avoir un but. On sait qu'on a été mis ici pour une raison. Mais je pense que c'est important de noter qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sans cette foi et qui pourtant portent eux en eux aussi de l'espérance pour nous croyants comme d'autres non-croyants. Je pense à une amie très chère qui est d'une bonté et dans sa démarche de vie et qui est juste absolument incroyable et elle n'est pas du tout croyante et je connais beaucoup d'autres personnes qui ne sont absolument pas croyants et qui pourtant mènent des chemins de vie dans la beauté, la bonté et dans le partage. Et je pense que eux aussi, malgré eux, et je pense que à mon avis, ils n'écouteront pas cette émission parce que c'est peut-être pas la radio qu'ils écouteraient en premier.
C'est peut-être pas le moment. Voilà, non. C'est pas le rendez-vous.
Hein. Mais
peut-être plus tard.
Je pense qu'on peut avoir une pensée pour eux parce que. Je n'oserais pas dire que j'étais d'une bonté indescriptible, mais pendant un bon moment, j'ai fait partie de ces personnes qui ne connaissent pas la grâce de Dieu et de ce que c'est d'être aimé et porté par Dieu et par une communauté qui l'entoure. Et donc, je pense que je leur souhaite tous de trouver cette joie et cette bonté, mais je pense que ils ne la trouveront pas tous. Et je pense que c'est important de les saluer. Parce que malgré eux, je suis sûre qu'ils ne font pas exprès d'être bons, mais ils portent en eux véritablement de l'espoir et de l'espérance aussi.
Eric ?
Moi, je pense, dans tout ce que j'entends, à la figure de Job, dont on n'a pas parlé, qui est une figure d'espérance aussi. Job dit précisément « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. » Et on sait à quel point Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Espérer comme toute espérance dans la nuit de la foi. » Et je pense qu'il est important de rappeler que la foi n'est pas le sentiment de la foi. C'est-à-dire que je suis toujours un peu gêné quand j'entends qu'on perd la foi, l'espérance. Non, la foi et l'espérance sont à la garde de Dieu. Ce que l'on perd, c'est possiblement le sentiment de la foi. On le voit chez Mère Thérèse, hein, par exemple, qui a persévéré pendant 50 ans. Et la figure de Job nous rappelle, vous parliez des épreuves aussi, que la vie de foi, la vie d'espérance n'est pas dénuée de ces trous dont vous parliez ou de ce sentiment de perte, mais que ce n'est pas sur ce sentiment que repose notre espérance, c'est sur celui qui la fonde. Et à cet égard, l'obscurité, c'est aussi un autre nom de la lumière.
Eh bien, dites-moi, merci infiniment. C'est bientôt la fin. Et là, je me tourne vers Jonathan, je crois. On arrive à la fin de cette première soirée.
Ah oui, parce qu'il y en a une demain aussi.
Il y en a une demain, il faut se préparer avec de belles surprises. Vraiment plein d'invités aussi, qui prendront aussi place dans ce même studio. Donc, je n'en dis pas plus. On garde la surprise jusqu'à demain soir. Et on offre ces soirées comme un cadeau à ceux et celles qui sont fidèles à l'antenne de Radio Présence. Ceux et celles qui, peut-être aujourd'hui, demain, sont comme le notait aussi Thomas, dans un moment peut-être d'obscurité, d'épreuve, peut-être dans une lutte, dans une quête aussi. On parlait de vérité, chercher cette vérité inlassablement sans jamais se décourager. Merci à vous tous ici présents, jeunes lycéens, élèves en classe de terminale, pour vos prises de parole, pour vos témoignages respectifs. Je ne peux que vous encourager à être pour aujourd'hui, mais dès demain, dans vos établissements, ces témoins de l'espérance, ces pèlerins de l'espérance pour l'année 2025 qui approche. Merci Éric de Russe pour vos interventions. On peut aussi vous découvrir, on peut découvrir aussi le visage de tous les saints que nous avons pu découvrir ce soir ou entendre. Saint François d'Assise, Saint Edith Stein, Claire de Castelbajac qui n'est pas encore sainte. Voilà, donner peut-être le désir du ciel, le goût de l'éternité et puis le désir à chacun et chacune qui nous écoute ce soir, le désir de reprendre le chemin, le désir de reprendre cette route vers l'espérance qui doit nous conduire vers l'éternité. Jonathan, je crois que c'est une petite alarme.
Non, je me suis trompé de bouton.
Oui, c'est moi.
J'ai pas appuyé sur le mauvais bouton.
Donc ce chemin d'espérance nous conduit aussi à ne pas rester dans la tiédeur, dans la passivité, dans le sommeil. Levons-nous, réveillons-nous et choisissons, on vous écoute tant les uns les autres, ce chemin qui est la porte du ciel, ce chemin du royaume, ce chemin où on est appelé à devenir des saints et des saintes, voilà. Et ça, c'est votre mission pour ce soir, pour demain, car vous êtes appelés à cette belle et grande mission, vous tous, les jeunes ici présents. Merci Suzanne Josépi Testu. Merci Éric de Russe, merci Bastien Hugues, animateur en pastoral pour l'établissement Saint-Joseph de la Salle, puisque vous avez bien conduit la sélection aussi de ces lycéens qui sont venus ce soir témoigner. Merci Claire Cécile du lycée Le Caouzou, animatrice donc en pastoral, pour tous ces jeunes que vous nous avez amenés. Et puis merci chers auditeurs aussi de votre grande fidélité. Nous comptons bien sûr pour poursuivre cette mission, car on parle bien de l'annonce de l'évangile qui conduit au royaume. Nous comptons sur votre soutien et il vous suffit d'appeler ce soir ou dès demain au 05 62 48 63 00 pour soutenir financièrement tout simplement Radio Présence pour que la mission se poursuive.